Que les gens sont toujours là.
Romain et Emmanuel m'ont fait des gestes en parlant fort, sauf que comme j'avais la musique fort dans les oreilles, je sais pas du tout ce que vous vous êtes dit. Qu'est-ce que vous avez essayé de me dire? Qu'il fallait que ce soit moi qui commence le podcast, c'est ça?
Peut-être. Ah, ça d'accord. Va les gars?
Ben ça va la forme, aujourd'hui on parle d'un sujet sérieux, on parle de l'écoute, Manuel. Toi tu sais être à l'écoute?
La preuve, je ne fais que ça.
Pas toujours.
J'attends de savoir combien de fois Manuel va me dire « Ferme ta gueule, s'il te plaît, j'ai pas fini » dans ce podcast.
Je sais forcer l'écoute.
Tu sais forcer l'écoute, ouais. Mais est-ce que tu sais être à l'écoute?
Mais je n'aime pas qu'on me brouille l'écoute.
D'accord.
Ça, c'est okay. Pour les fans de Contrepétrie.
Ok, d'accord. Bon, eh ben, on va s'arrêter là.
Toi, Léo,
les gens en ont assez entendu.
T'étais un peu trop à l'écoute avant, des autres.
Ah bon?
Ouais. Aujourd'hui, t'es plus à l'écoute de toi.
Oh putain,
je pense qu'il a toujours été à l'écoute de lui.
Alors là, on est sur de la philosophie, je sais pas si c'est vrai, mais c'est exceptionnel ce que tu nous proposes là. Non, je sais pas, moi j'ai un problème d'attention quand les gens me parlent, dans la mesure où souvent ce que je pense est bien plus intéressant que ce qu'on me raconte.
C'est surtout que pendant que les gens te parlent...
En toute
surtout...
modestie.
Et continue, normal, le podcast.
Mais oui, évidemment, bah, c'est bienvenue dans Take Out. Si vous ne connaissez pas ce podcast, je vous présente Léo, du coup, qui vient d'intervenir. Emmanuel.
Connard. Voilà. Non, en vrai, j'ai beaucoup de problèmes d'attention et je sais pas toujours être à l'écoute. Déjà parce qu'à chaque fois qu'on me raconte un truc, j'imagine une vanne. Du coup, ça brouille un peu mon attention quand quelqu'un me parle. Alors si c'est un sujet très sérieux, je sais fermer ma gueule et écouter. Mais c'est vrai que j'ai des petits problèmes d'attention qui fait que tu peux me raconter un truc et la semaine d'après, je l'ai oublié. Pourtant, je l'ai entendu, mais je l'ai pas retenu.
Mais c'est quelque chose surtout qu'on fait tous, ouais. Toute la journée. Et du coup, on prend pas l'habitude à un moment de savoir le gérer. Moi, je suis encore en train d'apprendre. Ouais. À le gérer.
On n'imagine pas que ce soit une pratique qui se travaille. En fait.
Vraiment pas. Quand j'ai rencontré Manuel, pour moi, le plus important, c'était de parler de moi quand les gens ne me connaissaient pas. Et en fait, c'est pas comme ça que tu touches, par exemple, des interlocuteurs qui ne te connaissent pas. C'est plutôt en t'intéressant à eux, ouais. Et en écoutant. Parce que c'est là où tu recueilles aussi des informations, des détails qui peuvent amener la communication dans des sujets qu'ils apprécieront plus ou moins. Voilà. Parce que ça m'est arrivé beaucoup trop souvent d'ouvrir beaucoup trop ma gueule sur des sujets et de me rendre compte que la personne en face de moi était tout sauf pour.
Ouais. Ben, en fait, si on parle de ce sujet, c'est parce qu'il est important à la fois sur le plan personnel et en même temps sur le plan du travail. Parce que être à l'écoute, c'est savoir se faire apprécier. Je vous invite à lire le livre « Comment se faire des amis » en français, qui a un très mauvais nom, qui a été très mal traduit. C'est « How to win friends » en anglais, qui est un peu plus correct. Qui est une bible, je sais pas, ça a 110 ans ce livre, et c'est assez exceptionnel, ça parle justement de ça. Ça explique que, bah, en fait, si vous voulez être apprécié, par exemple dans une soirée, posez des questions aux gens, écoutez ce qu'ils vous répondent, ne leur dites rien, et à la fin de la soirée, vous en trouvez très sympathique. Alors que vous ne leur avez rien dit, ils ne savent pas qui vous êtes, mais vous avez été à l'écoute simplement.
C'est normal parce qu'on vit dans un monde bruyant.
Ouais.
Et les gens valorisent le fait que, un, on s'intéresse à l'histoire qu'ils ont envie de raconter et à ce qu'ils ont à dire. Et puis, ne pas participer au bruit du monde, c'est une espèce d'exception.
Ouais.
Parce que là, on est tous entourés de gens qui veulent crier plus fort les uns que les autres. Mmh. Qui veulent exister, qui veulent qu'on les reconnaisse, qui veulent avoir un impact. Ouais. C'est mon expression préférée. Tous les gens... Toute votre génération là qu'on voit en recrutement, c'est l'expression utilisée. On veut avoir un impact.
Moi,
sur
dis,
quoi
moi,
on
ne
sait
ça.
Pas. Quand on ne sait pas non plus. Mais
non,
on veut avoir un impact.
On parle de l'écoute.
Oui.
Et pendant qu'on parle de l'écoute, Romain fait des stories Instagram.
Ouais. Ça veut dire qu'il est très, très
c'est
focus.
Fou de faire ça.
Mais je suis super focus.
Ah oui, qu'est-ce qu'on a dit les 5 dernières minutes, je t'écoute.
Alors, vous étiez en train de parler de cette génération qui cherche à avoir de l'impact,
ouais.
Avant même d'écouter et de savoir comment.
Et avant
coup.
Ça
Avant ça, on parlait de l'écoute puisqu'on vient de démarrer
oui,
le podcast.
Bah bien sûr, c'est le sujet du podcast, connard.
Évidemment.
De quoi on parlait? De rugby, essentiellement.
Ce sujet est super vague, les gars. On l'amène de quel côté? Est-ce que, parce qu'il y a un réel intérêt à écouter, que ça soit... En couple, en business, avec ses amis.
Dans la vie en général.
Voilà. Ouais. Bah sinon, en fait, tu vis un peu en autarcie, quoi.
Tu connais ma devise préférée hein, sur l'écoute.
Oui, vas-y. Pour ceux qui n'auraient pas écouté le dernier podcast.
J'en ai parlé dans le dernier podcast ?
Ouais, quasi sûr.
Vas-y.
Ou alors entre nous.
Vaut mieux fermer sa gueule et passer pour un con, plutôt que l'ouvrir et prouver qu'on en est un.
Ah d'accord, je pensais pas que c'était celle-là. Elle est bien ?
C'est la meilleure. Elle est très très bien, celle-là.
Elle est bien.
Voilà. J'aime beaucoup cette devise.
Elle est bien. Pourquoi l'écoute est importante ? Bah pour deux raisons, celle qu'on vient d'évoquer, c'est que si vous êtes à l'écoute, si vous laissez parler les gens, vous les laissez leur raconter, vous raconter leur vie, leurs problèmes, etc., vous allez être apprécié par les gens qui vous entourent. Si vous faites que parler, c'est insupportable, on connaît tous quelqu'un qui fait que parler de lui.
C'est horrible.
On déteste tous ces gens-là. Personne ne les aime. Donc si vous voulez être apprécié par votre entourage, votre milieu social, professionnel, etc., il faut être à l'écoute des gens, il faut leur poser des questions, etc., c'est hyper important. Et puis la deuxième raison, c'est pour solutionner des problèmes. Si t'es pas capable d'écouter la personne avec laquelle tu vis ou alors ton collègue de travail avec qui c'est problématique, bah, tu régleras jamais les problèmes parce que tu comprendras pas son point de vue.
Et c'est d'ailleurs ce que moi je remarque sur le point de vue business, c'est que beaucoup de gens essaient de monopoliser l'intention avec
l'attention
avec les solutions qu'ils ont déjà déployées auparavant et qui ont fonctionné pour d'autres cas.
Ouais.
Ils arrivent dans un cas à résoudre et ils disent, bon, vu qu'on a déjà fait ça, que ça a déjà marché, on va juste lui réexpliquer, on va essayer de lui vendre absolument ce qu'on
aucune
veut lui vendre.
Ouais.
Exactement. Et en fait, en écoutant parfois correctement ton interlocuteur, ben, tu vas avoir la décence de lui dire, je comprends ton problème et je ne suis pas la bonne personne pour le résoudre.
Mais c'est plus global que ça. En fait, je pense qu'il y a des tonnes de gens qui essayent d'apporter des solutions à des problèmes qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'il y a des, si, quand tu y réfléchis, écouter les gens, c'est prendre le temps de t'assurer que tu as compris de quoi on parle.
Ouais.
Et il y a des tonnes de gens qui commencent par dire qui ils sont, quelles sont leurs histoires, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Tu peux transposer ça au monde du business en disant voilà notre entreprise, voilà nos services, voilà nos références, etc., etc., etc. Et puis à la fin, tu te rends compte que le mec, son problème n'a absolument aucun rapport avec ce que tu as à proposer. Mais le monde est peuplé de ça.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Manuel est très fort dans l'écoute. J'en ai déjà parlé plein de fois dans ce podcast, mais la plupart du temps, quand tu rencontres des gens, ils sortent hyper heureux de t'avoir rencontré. Pas tous.
Vraiment, pas tous.
À nuancer cependant.
Heureusement.
Pas tous.
Heureusement. Mais, j'aurais peur si c'était tous.
Mais c'est une de tes plus. C'est peut-être ta plus grande qualité, je pense. C'est que tu sais faire parler les gens, être à l'écoute. Et du coup, bah, tu t'adaptes vachement à la personnalité des gens parce que justement, tu comprends leurs problèmes, tu comprends leurs doutes, ce qu'ils ont envie de faire, etc. Et tu as compris, je pense, très tôt dans ta carrière que c'était le point le plus important, c'est de comprendre la problématique des gens pour les emmener là où ils veulent aller.
Mais c'est aussi parce que c'est une stratégie de fainéant.
Tu m'as dit un jour, Manuel, souvent, quand tu écoutes la personne qui te parle, elle expose les propres solutions à ses problèmes.
Bien sûr.
Quand tu l'as fait parler, tu lui donnes aucune réponse, tu lui donnes aucune solution, elle-même les trouve.
Et je trouve que c'est intéressant parce qu'une façon de faire grandir les gens, c'est aussi de bien les questionner. Mais souvent, aider les gens, c'est pas leur donner les solutions. Aider les gens, c'est leur permettre de se poser les bonnes questions pour qu'ils trouvent eux-mêmes leurs solutions. Et souvent, ils ont les solutions. C'est juste qu'ils ne les voient pas.
Et cette manière de faire en sorte qu'ils trouvent eux-mêmes parce que tu poses les bonnes questions, c'est beaucoup moins infantilisant.
C'est beaucoup
de trouver la réponse soi-même à son problème.
Oui, et puis c'est beaucoup plus durable. C'est-à-dire que tu as de fortes chances que le type ne revienne pas te voir pour le même cas de figure parce que du coup, en ayant participé à la conversation au bon processus d'interrogation, il apprend une forme de mécanisme
De réflexion
plutôt que lui donner la réponse brute qui fait que chaque fois qu'il aura une question, il reviendra.
Ouais.
C'est pour ça que je disais c'est un process de fainéant.
Oui, mais pour autant, sur le moment, c'est ce qui fait que ça correspond à très peu de gens, c'est beaucoup moins rapide.
Ah non, ça prend un peu de temps. Oui.
Voilà.
Donc, ouais, mais c'est comme si tu faisais une chasse au trésor et plutôt que de lui apprendre à lire une boussole, tu lui dis bah en fait le trésor est là, va le chercher. C'est-à-dire que si t'as beaucoup de chasse au trésor à lui c'est faire, tu gagnes du temps finalement à lui expliquer comment lire une boussole et ce serait très utile à certains candidats de Koh-Lanta d'ailleurs.
C'est vrai, on les embrasse.
Voilà, je comprends pas comment tu peux aller à Koh-Lanta et sans t'être dit tiens je vais apprendre à lire une boussole. C'est fou.
Je n'ai pas d'avis, je n'ai jamais revu Koh-Lanta de ma vie.
Oui, mais pour autant, on fait une vanne, mais je pense que c'est un super exemple, Koh-Lanta. Mm-hmm. Ce n'est pas les candidats les plus forts, les plus baraqués, etc., qui vont jusqu'au bout. C'est souvent ceux qui écoutent le plus les autres. Parce qu'ils arrivent à aller parler à Jean-Philippe à droite de cette manière-là et à Christine à gauche d'une autre manière pour essayer de les monter les deux. Et en fait, c'est vraiment de la vraie psychologie, l'écoute. Et c'est important. Non mais c'est vrai, c'est important à dire parce que on
pas compris qui voulait monter.
On comprend souvent pas le pouvoir de... enfin moi en tout cas je l'ai pas compris assez tôt, le pouvoir de l'écoute plus que la parole. Souvent on explique aux gens quand ils veulent, enfin ils font des écoles de communication ou autre, on explique d'abord de bien se vendre avant de bien écouter l'autre. Je trouve ça dramatique.
Et tu fais bien de le faire remarquer, c'est un bon exemple, Koh-Lanta, parce que souvent, les gens qui ont une personnalité assez forte, ce sont des gens qui parlent beaucoup, qui veulent beaucoup imposer leur stratégie, qui veulent beaucoup dire « Ah bah lui, il fait rien sur le camp, etc. » et qui vont jamais questionner les autres.
Ça marche les deux premiers jours.
Et souvent, ils se font dégager comme des merdes et ils ne gagnent jamais Koh-Lanta. Est-ce que vous voulez des tips pour apprendre à être plus à l'écoute?
Bah, bien sûr.
Oui. Mais j'en ai parce que je me suis renseigné sur le sujet, je me suis dit « En fait, je suis une merde. » La plupart du temps... J'écoute un peu passivement, mais je ne retiens pas toutes les informations, etc. Donc, il faut que je m'améliore sur ce sujet. Et j'ai cherché, est-ce qu'on peut s'exercer? Est-ce qu'il y a des tips pour être mieux à l'écoute, pour être un meilleur auditeur? On ne parle pas forcément d'auditeur du podcast, mais dans la vie de tous les jours. Et il y a effectivement des tips, et on peut s'entraîner à être plus à l'écoute. Donc, j'ai répertorié 9 points, je crois.
Déjà, le premier exercice, c'est de faire un podcast avec Manuel. Parce qu'à chaque fois que tu penses qu'il a fini de parler, en fait, pas.
C'est pour
et
ça
souvent, en général, t'apprends à être à l'écoute.
On coupe les blancs, mais quand Manuel finit une phrase, on attend toujours 25 secondes.
C'est très long.
Pour s'assurer qu'il a terminé. Merci Thomas qui monte ce podcast, parce que sinon, ce serait un enfer pour les auditeurs.
C'est faux, tout ça est faux.
Premier conseil, comme en plus, c'est une très vieille personne, il parle lentement, donc c'est pareil, on fait des cuts au milieu des phrases, parce que sinon, c'est un enfer. Première astuce, poser des questions ouvertes. Pour éviter d'obtenir un simple oui ou un non qui ne veut rien dire et devoir créer une conversation avec ça, poser des questions ouvertes. Elles invitent à une meilleure conversation et l'autre personne se sentira mieux écoutée. Ça, c'est un truc que je ne sais pas du tout faire.
Un exemple.
C'est le fameux « tu vas bien ?» plutôt que le « mais comment tu vas ?» Je ne pose jamais ce genre de questions. Moi, c'est toujours hyper ouvert, peut-être parce que c'est toujours hyper fermé, peut-être parce que je n'ai pas envie d'avoir une réponse très longue. En général, je pose très peu de questions aux gens. J'y pense pas trop. Je suis très mauvais socialement de ce point de vue-là.
Moi, j'ai appris... c'est rigolo et je trouve que par contre il y a un premier vrai pouvoir qui se dégage de l'écoute, c'est le fait de mieux préparer ses réponses. Et plus tu t'entraînes à le faire, souvent tu verras moins tu vas réagir vite à ce que dit l'autre. Et c'est pas grave de laisser un blanc de 3 secondes.
Ouais.
C'est pas grave.
C'est-à-dire préparer ses réponses en amont?
Non, pendant que tu écoutes la personne. Plus tu la fais parler, plus tu peux t'adapter du coup à ce que tu as vraiment envie de lui dire. Et du coup, plus tes réponses sont justes.
Oui, mais ça, c'est un mauvais conseil, parce que pendant que tu prépares ta réponse, t'écoutes pas la personne. Donc, il vaut mieux prendre les 3-4 secondes de blanc après pour réfléchir à ta réponse et pas dire n'importe quoi, mais il faut que tu sois pleinement à l'écoute.
Ouais, c'est vrai.
Parce que pendant que t'es en train de formuler ta réponse, peut-être que la personne a dit des trucs très intéressants.
Factuellement, c'est moins facile à faire, c'est vrai.
Mais ça, c'est dur, hein.
Ouais.
Faut juste pas être pressé, hein.
Ça c'est hyper dur.
Manuel, c'est le pro des blancs dans les conversations. Mais vraiment le pro, on en a déjà parlé plusieurs fois si vous suivez les take-out. Ah si.
Perso, je trouve ça un peu raciste.
Vraiment, tu peux avoir des conversations et la personne a fini de répondre et il te regarde, il n'y a pas grand-chose quoi. Et il réfléchit.
Bah, du vide dans ses yeux, hein, concrètement.
Concrètement, non, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose. Je ne me sens pas l'urgence de répondre. Enfin, tu vois, on n'est pas dans un jeu télévisé.
Ouais.
Donc, on n'est pas chronométré, etc. Tu as le droit de réfléchir, de processer. Je ne me sens pas obligé de répondre immédiatement.
Mais c'est vrai que dans
ça peut déstabiliser.
Dans la société, c'est signe d'ennui, en fait. C'est si on n'enchaîne pas, on se fait chier, en fait.
Non, mais tu n'es pas obligé de vomir sur les gens.
Oui, non, mais je suis d'accord avec toi.
Tu vois mais... Donc, parce que moi, ce qui m'insupporte, c'est les gens qui ne réfléchissent pas. C'est-à-dire qu'il y a un canal direct entre leur, ce qui leur traverse l'esprit et leur bouche. Et ça, ça m'exaspère. Enfin, tu vois, c'est comme s'ils confondaient leur bouche avec leur anus.
On peut pas faire la même chose avec. Léo, deuxième tips.
T'as répondu premier degré à cette phrase.
Oui. Bah, j'enchaîne, quoi.
C'est terrible.
Bah, j'ai l'habitude d'être avec Manuel. Pardon pour les gens qui nous écoutent, mais moi, c'est quotidien. Oh, quoi.
Il est vrai qu'on ne peut pas faire la même chose avec. Je vous ai préparé un diaporama Le deuxième conseil, posez d'autres questions. C'est-à-dire que si quelqu'un vous parle de son poste en vous disant que c'est pas le poste de ses rêves, mais qu'il s'y sent bien parce que ses collègues sont cool, demandez-lui quel était le poste de ses rêves. La plupart des gens sont gênés de parler d'eux-mêmes, alors si vous ne leur posez pas de questions, vous n'obtiendrez rien. Ça, c'est vraiment le truc que je ne sais pas faire. J'ai un pote à moi qui est très fort là-dedans. À chaque fois qu'on est en société, quand quelqu'un répond un truc, il repose une question, puis il repose une question, puis il repose une question. Je ne sais pas faire ça. À chaque fois, je le vois reposer des questions par rapport à ce que la personne vient de répondre. Je ne sais pas si c'est que ça ne m'intéresse pas ou je n'y pense pas, mais à chaque fois qu'il enchaîne, je me dis « Mais putain, mais comment il a trouvé cette question ?» Ça, c'est une capacité que je trouve folle et je ne sais pas faire. Du coup, moi, en général, mes conversations, elles sont très courtes.
Toi, Manuel, quand tu es en société...
Oui.
Voilà, c'est tout. On peut enchaîner avec le troisième type.
J'attends la question, en fait.
Ça vous parle pas, ce truc ?
Je processe.
Moi, j'ai l'impression qu'en général, on ne pose pas d'autres questions, on va sortir son ressenti personnel. C'est-à-dire qu'on enchaîne très vite, vu que la personne... s'étale pas trop sur sa vie perso, on va dire « Alors moi, c'est vrai que je me sens bien, que c'est cool. C'est très rare, moi, que j'enchaîne par une autre question. »
En fait, dans beaucoup de cas, les gens ne s'écoutent pas les uns les autres.
Ouais.
C'est-à-dire que tu as un type qui dit un truc.
Deux monologues.
Le mec en face de toi n'a absolument rien à foutre et va enchaîner sur un truc qui le concerne et qui a vaguement un rapport parce qu'il veut pas avoir l'air complètement débile ou schizophrène. Et donc, tu vois deux personnes discutant ensemble qui ne s'écoutent absolument pas. Et en fait, l'astuce que tu donnes là implique d'écouter ton interlocuteur. Et dans beaucoup de cas, observez les gens autour de vous, vous rendrez compte qu'ils discutent ensemble sans jamais s'écouter.
Et ce que tu dis, je crois que c'est un truc qu'on fait pas mal dans le podcast.
Ah ben moi, je vous écoute jamais, sinon je ferais pas ce podcast. Hein.
Moi, je mets même pas le casque. C'est-à-dire qu'on s'écoute, mais souvent, on va enchaîner sur... Ah oui, moi, tout de suite sur une anecdote personnelle ou sur « Ah bah moi, je fais comme ça », on va rarement se reposer des questions.
Je trouve pas tant que ça. Et j'allais justement en venir aux réponses qui commencent par « Ah, ça me fait penser à moi qui ?» ou « Ah ben moi, j'ai ?» En général, si tes réponses commencent comme ça, c'est que déjà, t'es insupportable. Je suis désolé de te le dire, mais...
Écoute les podcasts parce que je suis absolument convaincu.
Bien sûr, mais parce que le but de ce podcast, c'est de partager à trois... nos expériences un peu personnelles et d'essayer d'apporter à chaque fois une histoire en plus pour faire interagir du coup les deux autres personnes.
Je crois que c'est une excuse.
Parce que... En soirée, on n'est pas comme ça, Léo.
En soirée, on parle à personne, on reste entre nous. Mec.
Voilà.
Donc forcément, on n'est pas comme ça. Mais par exemple, si Manuel raconte un truc intéressant, c'est peut-être parfois plus intéressant de lui reposer des questions sur ce qu'il vient de dire plutôt que de nous enchaîner sur « Ah, bah moi, je suis pas comme ça. » Je pense que c'est un truc qu'on fait pas assez et qu'on devrait plus faire.
Ok.
Je suis d'accord.
Qu'on te pose plus de questions,
Percator. Non, surtout pas.
À quel sujet tu es d'accord, Manuel? Je m'entraîne, hein, parce que c'est compliqué. Troisième astuce, accordez toute votre attention. Un Romain qui fait des stories. Posez votre smartphone, éteignez la télévision. Ça, c'est un truc qui est infernal. Quand deux personnes essaient d'avoir une discussion,
mais le
la
smartphone.
Télé est allumée. Le smartphone, c'est le pire truc, genre au restaurant. Quand tu discutes avec quelqu'un,
il est sur son téléphone, il se regarde et il fait c'est... Ça me rend malade.
D'ailleurs, rien que la présence du téléphone sur la table, s'il ne l'a même pas dans les mains, s'il est retourné, etc., y a quand même une espèce de stress, une espèce de pression sociale qui est inculquée par le téléphone qui est sur la table. Donc, mettez-le dans votre poche.
J'allais y venir. C'est-à-dire que je trouve que le téléphone face down, qu'il soit down ou up, ça ne change rien.
Alors,
en fait.
Y a une étude qui a prouvé que c'est même pire quand le téléphone est face contre la table parce que ça nous dédouane un peu. On se dit... Ça va, je l'ai mis.
Les gars, vous me faites chier.
J'ai mis l'écran contre la table.
Non.
Tu t'achètes un petit peu de réassurance psychologique le mettant vers le bas comme ça.
Et du coup, de temps en temps, tu te dis bon, là, je peux le checker parce que j'ai quand même fait un beau geste.
Mais
je te jure.
Pour moi, c'est extrême.
Mais en fait, c'est nul. C'est nul. Ouais. Parce que, en fait, tu mets au milieu du débat une troisième personne qui, à tout moment, a le pouvoir d'interrompre deux humains entre
eux. Sérieux ?
C'est comme ça que je le vis. Hein.
Et ton Apple Watch ?
Oui, bah mon Apple Watch,
Ouais, souvent, tu la regardes, etc.
Je la regarde, elle me notifie sur deux choses, mon Apple Watch, et rien que deux choses. Mes rendez-vous. Donc, en gros, pour me dire, attention, il faut que tu finisses ce rendez-vous dans les 10 minutes qui arrivent parce que tu en as un autre après. Donc, elle me permet de gérer mon timing et de ne pas dire à quelqu'un, maintenant tu te casses. Mais plutôt de gérer les dernières minutes à peu près proprement sans avoir à violenter ton interlocuteur. Et la deuxième chose, c'est une liste de personnes très précises qui peuvent générer des notifications SMS. Le reste, je n'ai aucune notif.
Mais même quand quelqu'un regarde sa montre, c'est un enfer. Tu discutes avec quelqu'un, t'as l'impression qu'il regarde l'heure.
Je trouve ça pire que téléphone.
C'est la pire chose. Donc avec une Apple Watch, tu peux avoir le même sentiment.
D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé au début avec l'Apple Watch, comme à tous les gens qui avaient des Apple Watch. C'est que les gens pensaient que je regardais l'heure et que je m'ennuyais.
Ouais.
Et je dois dire, je vais faire une confession dans ce podcast.
Tu t'ennuyais.
Que par moment, j'ai utilisé ce prétexte parce que je m'ennuyais vraiment. C'était en fait une notif et je disais, oui, c'est vrai que j'ai un autre rendez-vous qui arrive et je regarde l'heure. Mais voilà, j'ai utilisé ça de temps en temps.
Donc il n'y a rien de pire que de parler à quelqu'un qui ne semble pas vous écouter. Donc, accordez toute votre attention. Quatrième astuce, résistez à la tentation de parler. On l'a évoqué un peu. Laissez la personne finir ses phrases elle-même. Il n'y a rien de pire que ça, je sais que je le fais beaucoup aussi, je suis terrible, que tu essaies de raconter quelque chose et il y a une personne qui croit pouvoir finir tes phrases à ta place et le fait. Ça, c'est un enfer parce que la plupart du temps, elle tombe à côté.
Je le faisais avant.
Et parfois, tu oses pas trop la contredire, alors tu dis ouais, c'est ça. Et au final, tu pars sur un truc complètement différent. Ça, c'est insupportable. Donc, si vous voulez écouter, vous ne devez pas prendre le contrôle de la conversation. Vous devez simplement l'écouter.
Ce qui est parfois difficile et pénible.
Ouais.
Mais si je peux donner une astuce... voilà, je ne prétends pas qu'elle soit dans ta liste. Ta gueule. mais la mienne, c'est que... Alors, elle est un peu frontale, mais je dis aux gens quand je m'ennuie. Je leur dis, là, tu peux aller plus vite. Sincèrement, je comprends très, très bien. Va plus vite, je m'ennuie.
C'est vrai que je t'ai vu le faire plusieurs fois.
Et je préfère dire ça.
C'est hardcore.
Plutôt que d'essayer de finir ses phrases à sa place ou je sais pas quoi. Je lui donne une indication sur le fait que pour ne pas que mon attention se dérobe, il peut accélérer.
Je trouve pas que ce soit hardcore. Parce que je t'ai entendu le dire, c'est pas désagréable. Tu dis pas, je m'ennuie. Tu dis à la personne, oui, j'ai compris, enchaîne, passe à autre chose. C'est-à-dire que la personne arrête de te surexpliquer quelque chose qu'il a déjà compris, donc tu passes à autre chose et la conversation est quand même plus intéressante. Donc je ne trouve pas que ce soit hardcore.
Je trouve que c'est plus honnête.
Puis comme ça, tu ne perds pas ton attention, en fait. Ça veut dire que ce qu'elle est en train de te raconter t'importe un minimum, tu n'as pas envie de perdre le fil.
C'est d'ailleurs tout le problème de l'enseignement. C'est que comme on n'a pas de groupe de niveau, pendant que tu es en train de surexpliquer un certain nombre de personnes qui en ont totalement besoin pour comprendre, il y a des tonnes d'élèves qui s'emmerdent. Et quand ils s'emmerdent, ils décrochent. Et c'est compliqué à gérer.
Mais je trouve que l'écoute va tellement avec la concentration. Pour moi, c'est la plupart du temps un vrai problème de concentration.
Ah oui, c'est un problème d'attention, de concentration complètement. Ouais.
C'est, je pense, ce qui est très dur encore plus aujourd'hui avec tous les usages des produits autour de nous. On sait que la concentration a drastiquement baissé dans la société. Du coup, vu que la concentration a baissé, forcément le niveau d'écoute a baissé et devient encore plus compliqué à avoir. Puisqu'on a un niveau d'écoute en moyenne de 3 secondes sur TikTok, pour vous donner une idée quand même.
Ouais.
C'est dramatique. C'est-à-dire que vraiment, si la personne ne vous a pas vendu le sujet en moins de 3 secondes, vous changez de sujet. C'est-à-dire que vous partez du principe que ça ne vous intéressera pas, même si la vidéo fait 2 minutes.
Je suis tombé hier sur un TikTok de Pierre Ninet, qui au bout de 5 secondes n'avait toujours pas vraiment introduit son contenu. Et j'esquive en me disant, il n'a pas le format TikTok, c'est horrible.
Et c'était
vraiment horrible. C'est-à-dire, sur TikTok, tout va tellement vite. Si le mec, il t'introduit pas son sujet pendant les 5 premières secondes, tu fais, vas-y, c'est bon, j'ai pas le temps. Bon, en vérité, j'avais le temps, mais j'avais pas envie de le prendre.
T'étais sur TikTok, t'avais le temps.
Cinquième astuce, observez le langage corporel.
Ah.
Le corps parle et il dit parfois bien plus de choses que ce que la personne en question veut bien transmettre.
Toujours même.
Toujours, souvent. Alors, en observant ses actions, vous verrez si elle est stressée, si elle est enjouée, fatiguée. Soyez attentif à ça. Ça, Manuel, ça t'a fait réagir ?
J'adore. Moi, j'ai beaucoup travaillé les questions d'expression non verbale.
Ouais.
C'est des sujets qui m'ont beaucoup intéressé. J'ai un peu travaillé ces questions-là parce que je pense que c'est un complément d'information quand tu le comprends, te permet de mieux apprécier le message explicite qu'on te donne. Parce que la parole, c'est un message explicite. Et le corps, c'est souvent un message implicite. Mmh. Et quand ils disent pas la même chose, c'est vachement intéressant.
C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que souvent, ça t'apporte une information en plus ou t'as l'impression parfois que c'est même carrément contradictoire ?
Ça, il peut arriver que ça soit contradictoire. Et ça te donne envie, du coup, de poser des questions, mmh. de creuser.
Ouais.
Parce que tu arrives à détecter les passages du discours ou de l'argumentaire où la personne en face de toi n'est pas sûre d'elle. Mmh. Où tu sens que... franchement, il y a une contradiction entre ce que son corps dit et ce que lui est en train d'exprimer. Et ça, ça entoure en rouge des zones d'interrogation et dans lesquelles il faut passer un peu de temps à investiguer, puis ça te permet de détecter le bullshit.
T'as des livres à recommander sur le sujet que t'as lu ?
Je pourrais en donner. J'en ai dans mes listes.
Eh bien, on va attendre.
Il y a certaines choses physiques, par exemple, qui se remarquent et moi, j'avais regardé sur Internet pour les comprendre aussi. Quand tu bailles, ben, c'est pas forcément que t'es... Enfin, ça n'a même aucun rapport avec la fatigue. Quand quelqu'un te parle et que tu bailles, souvent, ça envoie le signal que... merci, Léo, qui baille. Ça envoie le signal qu'il est en train d'essayer de se concentrer pour rester accroché à la conversation.
Ah ouais. Il est fatigué, mais de ta conversation.
Exactement.
Ouais.
Et ça... c'est dingue. Juste repérer ça, les premiers gros trucs comme ça, quand tu discutes avec quelqu'un et que tu vois qu'il va et tu fais « Ok, donc là, il a un vrai problème de concentration, il va falloir que j'accélère parce que dans mmh. deux secondes, tous les trucs que je vais lui dire, il ne les intégrera pas. » En fait, ça signifie que ton cerveau commence déjà à penser à d'autres choses, à travailler sur d'autres mmh. sujets en tâche de fond parce que ton sujet ne l'accroche pas assez. Quoi. Moi, par exemple, c'est mon problème principal, ça. Je baille très souvent quand on m'explique un truc qui ne m'intéresse pas des masses ou que je n'arrive pas à accrocher. Mais au bout de 10 secondes, je baille. Et c'est tellement malaisant pour la personne qui se trouve en face de moi.
Il y a un autre langage non-verbal. Quand tu bandes... Non, je ne veux pas la faire celle-là, vas-y.
Alors, mes deux meilleurs livres sur le langage corporel,
ouais.
C'est The Definitive Book of Body Language. Et le deuxième, donc, c'est Think Like a Psychologist. Mm-hmm. Et c'est un super livre. Voilà. C'est les deux livres que j'ai dans mon Kindle.
Trop bien, j'en ai lu aucun.
Tu peux lire les deux.
Mais je crois que j'ai jamais lu sur le sujet. C'est peut-être pour ça que je suis une merde en écoute.
Je pense pas, mais...
Merci de ne pas valider. Voilà. Merci, Manuel. Sixième astuce. Celle-là, c'est peut-être...
Je ne pense pas que ce soit la raison.
D'accord, merci. Sixième astuce, c'est peut-être la plus difficile. Oubliez votre visage. On s'en rend pas forcément compte, mais quand quelqu'un nous regarde, on accorde beaucoup d'attention à nos expressions faciales. Et on perd donc en écoute. Contentez-vous de regarder la personne dans les yeux et votre visage réagira naturellement à ce que vous entendez. Ça, c'est un truc, je m'en rends compte parfois. Tu sais, c'est le truc de...
Ou au contraire, utilise-le.
Est-ce que j'ai
de mon point de vue.
Crotte de nez, ou est-ce que je suis en train de sourire assez, ou est-ce que je suis pas un peu crispé ou, Moi, je m'en rends compte assez souvent que je fais vraiment attention à mon visage.
Moi, les gens qui sourient trop, ça m'angoisse. Je me dis, putain, ça cache quelque chose. Mais ça, je te jure que ça m'angoisse, ça me fout le bourdon, en fait. Il faut regarder ses interlocuteurs. Je pense que... Alors, oubliez votre visage, moi, je ne suis pas hyper à l'aise avec ce conseil-là. Moi, je dirais au contraire qu'il faut, il faut utiliser son visage pour exprimer des choses qui donnent des indications à ton interlocuteur.
En faisant quoi, par exemple ?
Tu vois, si tu t'accoudes et que tu poses ton menton dans ta main, etc., ça laisse penser que tu t'emmerdes.
Je crois que ça, c'est quand tu as atteint le level 2, en fait.
Oui, c'est possible.
C'est-à-dire que si tu as des problèmes d'écoute, il ne faut pas que tu penses à tout ça parce que sinon, ça va être terrible.
Ça va compliquer les choses.
Une fois que tu as acquis un certain niveau et que tu sais que tu peux écouter les gens sans problème, là, tu peux commencer à
faire
ce genre de...
Par contre, level 1, regarde ton interlocuteur.
Dans les yeux.
Dans les yeux. Ça, c'est le moindre des respects, on va dire. Et pour les gens qui ont du mal à regarder leur interlocuteur dans les yeux,
un seul œil.
Petite astuce, où tu regardes un seul œil.
C'est ce que je fais, moi.
Ça ne se voit pas à plus de 40-50 cm de distance.
C'est dingue. Là, Romain, je regarde qu'un seul œil.
Et ton interlocuteur ne le voit pas. Ou tu regardes entre les deux yeux.
Ah, c'est terrible ça. Ah non, je préfère l'œil.
Et l'autre ne voit pas que tu regardes entre les deux yeux.
C'est horrible.
Voilà.
Du coup, je m'attarde beaucoup trop sur tes sourcils.
Je sais qu'ils te captivent.
Non, regardez l'œil gauche. Moi, c'est ma strat. Je regarde tout le monde.
Mais c'est dingue, j'avais jamais entendu ça, moi.
Et c'est une super astuce. Et
ça te permet. Tu peux pas regarder les deux yeux.
Ça te permet de tenir le regard très longtemps.
Tu peux pas regarder les deux yeux en même temps.
Parce que souvent, suivant ce que tu as envie de raconter ou de demander, c'est surtout quand tu veux demander quelque chose, je trouve que le regard fuyant est beaucoup plus présent. T'as du mal à regarder la personne.
Après, je vais vous donner un autre truc que j'utilise. C'est que quand j'ai besoin de faire passer des messages importants à des gens,
ouais.
dans le discours que je vais leur tenir...
Tu l'écris sur ton front.
Je ne les regarde pas. Je regarde ailleurs et je commence à leur dire ce que j'ai à dire. Et quand j'arrive à un passage très important, là, je les regarde droit dans les yeux. Okay. Juste sur la phrase ou les deux phrases qui comptent.
Ok.
Et ça, c'est hyper puissant.
Tu me fais très peur. Je ne vais plus jamais te parler.
Mais c'est super
podcast.
Intéressant.
Ouais.
D'avoir autant de maîtrise là-dessus. C'est dans le livre dont je parlais la dernière fois, Arrêtez de couper la poire en deux. Où ouais. il parle beaucoup de justement, ne serait-ce que les bruits de bouche que l'interlocuteur peut faire, les mimiques et toutes ces choses-là à contrôler pour bien comprendre qui est ton interlocuteur, à qui tu t'adresses et ce qu'il te raconte verbalement, justement, et...
Non verbalement. Justement, le septième point va te parler, parce que je crois que c'est dans le livre, tu nous en avais parlé la dernière fois, répétez ce que vous entendez. Alors, pas tout, évidemment,
ça mais peut être long.
Sur des éléments importants, répétez ce qu'on vous dit avec vos propres mots pour être sûr d'avoir bien compris.
C'est super dur. C'est vraiment super dur. J'essaie de le faire. Ouais, depuis que je l'ai lu, j'essaie vraiment de le faire avec des clients, du coup. Donc, un client, il te raconte que la bonne stratégie, c'est d'avoir une vidéo YouTube sur la chaîne de Léo Duff, par exemple. Bah, juste lui répondre en lui disant une vidéo YouTube sur la chaîne de Léo Duff, c'est tout à fait envisageable en la travaillant de... C'est super compliqué de se concentrer sur une phrase clé. Parce
en l'occurrence, c'est pas envisageable.
Effectivement, jusqu'à la fin de l'année, en tout cas. Enfin, veuillez me consulter pour toute modalité.
Ça va vous coûter très cher, mais envoyez-moi un mail quand même, si besoin.
On répondra. C'est très compliqué à faire.
T'as l'impression de passer pour un con ? Ou c'est vraiment un autre problème ?
Ben c'est pas naturel. Tu te forces à essayer de faire quelque chose qui va dans le sens de l'autre, mais pas dans le tien. En fait, c'est ça qui se passe.
En fait, tu peux utiliser des transitions pour ça. Tu peux dire, donc si j'ai bien compris ce que vous voulez dire, nanana. Ou est-ce que vous voulez dire que... En faisant
c'est
ça,
level one, c'est
il
ça.
Se passera ça.
Ouais.
Donc ça aide. Mais le mimétisme, c'est aussi une façon d'amener les gens à préciser ou leur montrer que tu les as bien écoutés.
Ouais.
Certains ont besoin de ça.
Et on en avait parlé à propos du livre « Arrêtez de couper la poire en deux ». C'est une super méthode de négociation. Parce que parfois, la personne que vous avez en face va repréciser et perdre un petit peu en valeur de son côté. C'est-à-dire qu'elle va un peu réduire, par exemple, si un client te dit un prix ou te donne un nombre de trucs à faire, si tu lui demandes de répéter, elle va peut-être se sentir un peu agressée, un peu moins en confiance que la première fois, et elle va baisser le prix, ou en tout cas, tu vas gagner un petit peu de marge là-dessus.
Ça a marché.
Yes.
C'est vrai. Depuis le dernier podcast, ça a marché. J'ai réussi pour la première fois à répondre « Je suis désolé, vous me proposez ça pour ça ?» Je disais en fait on pourrait peut-être, enfin sinon on peut le faire comme ça et comme ça, en le faisant comme ça et comme ça c'est envisageable, boum, en deux phrases t'as éclaté le truc et t'as gagné quoi, un tout petit peu, mais ça aide vraiment.
Ça marche. Huitième astuce, pratiquer l'écoute.
On était à la septième, non?
Donc oui. Après c'est la huitième.
Donc après c'est la huitième.
Non mais on devait faire la... Non d'accord, huitième astuce.
C'est parce que en fait c'est
un problème
j'étais
d'écoute.
Pas à l'écoute.
1, 2, 3, 4, 5, 6, après 7 et après c'est 8 le chiffre. Pratiquer l'écoute. Écouter correctement demande plusieurs aptitudes cognitives, on l'a vu, beaucoup de concentration et d'attention, et tout ça se travaille. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire en écoutant le podcast. Faites pause maintenant, et à haute voix, faites un résumé de tout ce qu'on vient de dire.
Courage.
Waouh.
Ce sera probablement assez mauvais comme résumé, vous pouvez même nous l'envoyer par message vocal sur la plateforme sur laquelle vous pouvez nous poser les questions. On ne les écoutera pas, mais si ça vous fait plaisir, vous pouvez nous
l'envoyer. Arrête de dire ça, c'est pas vrai, on les écoute.
Donc ce sera probablement
vous avez tout en description.
Assez mauvais, mais si vous refaites l'exercice la prochaine fois, dans notre prochain podcast, vous allez travailler votre attention, donc votre écoute.
C'est vrai, c'est une bonne méthode, je trouve.
Bah, surtout que ça implique que les gens écoutent notre podcast, donc plus d'audience, donc plus d'argent, donc plus de jus de pomme.
Est-ce que le fait de prendre des notes en même temps que d'écouter, ça peut aussi décupler l'écoute ?
Je crois que ça, tu vas mieux retenir ce que t'écoutes, mais tu vas pas travailler ton attention.
Puis ça te rajoute une difficulté en fait. Écouter la personne, prendre des notes en même temps et préparer tes réponses, là...
En fait, à partir du moment où tu notes, derrière tu peux relire tes notes.
Ben, c'est ça.
Donc c'est pas ton attention, c'est pas ta mémoire auditive que tu vas travailler. Tu vas mieux te souvenir de ce que tu réécris, mais ça ne travaille pas ta mémoire auditive.
Moi, ce que je fais quand j'écoute des talks où je veux garder le cheminement intellectuel, je fais que des bulles avec des mots-clés que je relie entre elles.
Ouais.
Mais il y a un mot.
Mot à mot, quoi.
Tu vois, il y a un mot-clé. C'est le mot-clé le plus important du raisonnement. Donc, ça peut être le mot-clé de l'intro, par exemple, où le mec a passé 5 minutes sur son intro à t'expliquer son truc, etc. Je vais noter ce mot-clé. Je vais mettre une bulle autour. Je vais mettre numéro 1. Et je vais la relier à la bulle numéro 2, etc., etc., etc. Et après, je fais... Quand tu l'écoutes, tu peux faire des liens entre tes bulles.
Ouais.
Donc, tu peux dire que la 3 est reliée à la 7 par un autre mot-clé. Et là, tu mets un autre mot-clé sur le lien. Et à la fin, tu as une espèce de mind map.
Donc, si tu le découvres, ça t'évoque rien. Mais toi, comme tu l'as entendu et que tu l'as un peu retenu, tout de suite, c'est beaucoup plus clair.
Et surtout, l'effort à fournir pour prendre des notes est relativement faible.
Ouais.
Et donc, tu ne te déconcentres pas dans ton écoute pendant que tu es en train d'écouter ton interlocuteur sous prétexte que tu as envie de prendre des notes. Alors que si tu essayes de faire du mot à mot ou des phrases clés, ah ou ouais, etc., etc., tu perds un morceau du truc. C'est impossible.
Ouais. J'ai une dernière astuce, sans doute la plus importante. Faites preuve d'empathie. Votre vérité n'est pas celle de la personne que vous avez en face. Vous n'avez pas grandi au même endroit. Vous n'avez pas le même milieu social. Vous n'avez pas la même vie. Écouter, ce n'est pas être d'accord. Écouter, c'est essayer de comprendre.
Bah, c'est vrai. C'est pas parce que tu écoutes les gens que tu es d'accord avec eux. Et même, c'est pas parce que tu n'entres pas en conflit ou en opposition, c'est pas parce que tu n'opposes pas d'argument que tu es d'accord avec ce qu'ils disent. Ouais. Donc, écouter ne veut pas dire, écouter avec calme, sans agitation ni quoi que ce soit, ne veut pas dire que tu es d'accord. D'ailleurs, souvent, les offensives les plus redoutables sont adressées dans le plus grand des calmes.
Ouais.
Et ça peut être très déstabilisant d'écouter quelqu'un, de ne pas être du tout d'accord avec lui et de juste lui répondre « D'accord, je comprends.
»
Et à l'intérieur, tu bouillonnes, c'est mais dur, tu te dis « Ça vaut peut-être pas le coup que je déploie cette énergie-là et c'est peut-être pas le vrai sujet au fond. C'est peut-être pas notre... »
Mais je pense surtout que dans les négociations, par exemple, quand tu parles, tu donnes une indication à l'autre de quelle est ta pensée.
Ouais.
Alors que quand tu écoutes avec beaucoup d'attention et que tu t'efforces de faire ta poker face et de ne pas parler tant que ça n'est pas à ton tour de parler ou tactiquement le bon moment pour parler, c'est très déstabilisant pour l'autre parce qu'il déroule un argumentaire et il n'a aucune idée de ce que tu penses.
Oui, c'est vrai que c'est déstabilisant. Voilà, c'était mes 9 astuces. Moi, je vais essayer de faire des efforts et de les appliquer pour être mieux à l'écoute, pour être un meilleur auditeur, ce que je ne suivais pas forcément toujours. Mais je vous aime bien quand même. Hein.
Bah nous aussi.
C'est juste que je ne peux pas vous entendre. Mais vous voir, ça va.
Moi, j'essaie de vous le dire de moins en moins.
T'essaies de nous quoi ?
Deux.
Trois.
Un. Salut.
Bonne soirée, la bise.
Bye bye.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.